Chapitre 20. Au numéro 5 de Cheyne Row. Frank avait apporté à la maison la vie de Carlyle, et Maud y avait jeté un coup d'œil dans les quelques demi-heures de loisir que lui laissaient ses nombreux devoirs de jeune ménagère. Tout d'abord, elle trouva ce livre bien sec, mais dès qu'elle eut compris qu'il y avait là, entre autres choses, la description de la vie intime d'un mari et de sa femme, elle y prit le plus vif intérêt. Elle s'en enthousiasma avec une passion, avec une exagération déraisonnable. Elle manifestait de la tolérance et même de la tiédeur à l'égard de Frédéric, de Cromwell, à l'égard des autres grands thèmes de ses livres. Mais les questions importantes qui intéressent la femme, comment la traitait-il, comment le supportait-elle, s'imposaient à elle avec cette force de l'intérêt éternel et personnel qu'elles ont pour toute femme. Avec sa nature douce, elle n'était guère sujette à prendre les gens en grippe, mais il est certain que parmi les gens qui lui plaisaient le moins, le sage de Chelsea, avec sa tournure dégingandée, prenait une ampleur croissante. Un soir, pendant que Frank lisait devant le feu, il vit soudain sa femme agenouillée sur ce tapis de foyer et le regardant d'un air des plus interrogateurs. « Frank, mon chéri, je voudrais que vous me fassiez une promesse. » « Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Consentirez-vous ? Comment puis-je vous le dire, puisque je ne sais pas de quoi il s'agit ? C'est horrible de votre part, Frank. Il y a un an, vous auriez promis d'abord et vous auriez demandé après. Mais je suis maintenant un vieux mari malin. Eh bien, voyons ce que c'est. Je veux que vous me promettiez de n'être jamais un Carlyle. Non, non, jamais. Vraiment ? Vraiment, sincèrement. Vous le jurez ? Oui, je le jure. Oh, Frank, vous ne vous doutez pas quel soulagement c'est pour moi. Cette bonne petite dame si douce, si laborieuse, vrai, cela m'a fait pleurer ce matin de voir comment elle a été traitée.
Comment cela ?
Je lisais ce volume à couverture verte que vous avez apporté. Cet homme m'a paru si froid, si sarcastique, si peu sympathique. Il n'avait jamais l'air d'apprécier ce que sa femme faisait pour lui. Il ne pensait jamais à elle. Il était tout entier à ses livres, jamais à elle. Quel homme dur, cruel !»
Frank monta au premier et revint un volume à la main.
« Quand vous aurez fini la biographie, ma chère, il faudra lire ceci. »«
Qu'est-ce que c'est ?»
Ce sont ses lettres à elle. On les a arrangées pour les publier après sa mort, alors que son mari vivait encore. Vous savez que...
Je vous prie, tenez pour certain que je ne sais rien. C'est charmant d'avoir quelqu'un devant qui on ne soit pas obligé de sauver les apparences. Maintenant, commencez par le commencement et allez jusqu'au bout.
Et elle appuya amoureusement sa tête contre les genoux de Frank.
Il n'y a rien ou presque rien à raconter. Comme vous le dites, ils ont eu leur chagrin dans la vie. La dame était fort capable de s'en tirer, je crois. Elle avait la langue à serrer comme une lancette quand elle voulait. Lui, pauvre garçon, il était tout foie et nerfs, ayant été empoisonné de bouillie dans sa jeunesse. Pas d'enfants pour émousser leurs ongles. Une demi-douzaine d'états tampons auraient fait régner la paix entre eux. Toutefois, pour en revenir à ce que j'allais dire, il lui survécut d'une quinzaine d'années. Pendant ce temps, il réunit les lettres qu'elle lui avait écrites et les annota. Vous pourrez lire ses notes ici. L'homme qui écrivait ces notes-là aimait sa femme et il chérit sa mémoire comme jamais homme ne le fit sur terre. La jolie tête qu'il avait contre son genou s'agita avec impatience.
À quoi bon cela pouvait-il servir à la pauvre femme après sa mort ? N'eût-il pas pu lui prouver qu'il aimait, qu'il songeait à elle pendant qu'elle vivait ?
Je vous dirai, Maud, qu'il y a deux côtés à considérer. N'ayez pas tant de parti pris. Et souvenez-vous que jamais personne ne blâma Carlyle aussi amèrement qu'il se blâma lui-même. Je pourrais vous lire ces bouts de notes ?
Eh bien, lisez.
Voici la première lettre où elle parle de leur emménagement dans la maison de Cheyne Row. Ils avaient passé leurs premières années en Écosse, vous savez, et ils touchaient à la quarantaine quand il arriva à Londres. Le succès de Sartor Resartus les encouragea à faire ce pas. La lettre qu'elle écrit raconte tout ce qui se passa alors. Voici le commentaire qu'il en fit après qu'elle fut morte. En 8 jours, tout fut nettoyé, meublé, parfaitement habitable, et ne cessa de se polir, de se civiliser, de s'embellir à un degré qui me surprit. Je fais quelque part allusion à tout cela et à la conduite que tint ma petite Jeannine. Cette petite scène dans le temps me regarde aujourd'hui d'un air héroïque, aimant, pathétique, douloureusement belle à la lumière de l'éternité. Depuis sa naissance même, elle avait vécu dans l'opulence. Elle devint alors pauvre pour moi, si noblement pauvre. Pas une maison qui pût être comparée pour la belle économie. Non, il semblait que le minimum d'argent obtint, comme à son insu, le confort humain, la dignité humaine. Non, je n'ai jamais vu cela, partout où je suis allée. Et maintenant, Maude, est-ce que cet homme rendait justice à sa femme ? Mais elle s'obstinait à hocher la tête. Des mots, des mots. Oui, mais des mots tout vibrants de sincérité. Ne pouvez-vous pas distinguer le sentiment réel de celui qu'on simule ? Je ne crois pas que les femmes le sachent. Sans cela, elles ne se feraient pas si souvent jouer. Voilà ce qui précède la lettre suivante. Cette lettre est douloureusement belle pour moi, petite lumière claire du foyer domestique qui brille, pure et éclatante, dans les sombres endroits encombrés du passé. Un peu plus loin, il y a cette note « À ma pauvre petite femme, devenue pauvre pour moi. » J'aime à l'entendre parler ainsi. Oui, je l'aime mieux après ce que vous avez dit, Franck. Il faut que vous vous rappeliez 2 choses en ce qui le concerne, Maude. En premier lieu, il était écossais, et s'il est des gens qui ont le cœur sur la main, ce ne sont certes pas eux. En second lieu, il était sans cesse aux prises avec quelques sujets à longue portée qui lui faisaient oublier les menues choses de son milieu. « Mais pour une femme, c'est tout ces menues choses, » dit Maude. « Si jamais vous perdez de vue ces menues choses, monsieur, par exemple d'être poli envers votre femme, comme vous le seriez envers toute autre dame, d'être aimant, de penser à elle, de sympathiser avec elle, ce ne sera point une consolation pour moi de savoir que vous avez écrit le plus beau livre du monde. J'en viendrai même à détester ce livre, et je crois qu'au fond du cœur, cette pauvre dame détestait tous les livres qui lui avaient pris son mari. Je me demande si leur maison existe encore. Certainement, elle existe. Aimeriez-vous à la visiter ? Je crois que rien ne me ferait plus plaisir. Hé, Maude, voilà que nous nous formons un cercle des connaissances les plus distinguées. Mr. Pepys le mois dernier, et à présent les Carlyle. Eh bien, nous ne pouvons faire un meilleur emploi de l'après-midi de samedi, en sorte que si vous venez me trouver demain à Charing Cross, nous commencerons par un bon petit lunch ensemble chez Galli, puis nous descendrons à Chelsea. Maud avait des principes rigides en économie, Franck aussi, à sa manière, car avec le grand respect de soi-même qu'on trouve dans la classe moyenne, l'idée d'avoir des dettes leur était insupportable. Prendre un cab au lieu d'un omnibus leur paraissait de la prodigalité, mais ils n'hésitèrent pas à s'en payer un pour cette petite sortie. C'était chose charmante que de se faufiler dans un hansom, mais, afin d'y être bien confortablement installé, il faut entourer de son bras la taille de sa compagne. Personne ne peut vous y voir ainsi, car ce véhicule est construit d'après des principes intelligents. Il est vrai que le cocher vous voit d'en haut par un trou dans la capote. Ce cocher la lévit et il rit dans sa cravate. Si la femme de ce tourtereau pouvait le voir, quel potin alors, dit le cocher. En outre, c'était un cocher intelligent, car ayant entendu Franck dire « la maison de Thomas Carlyle » après avoir donné l'adresse Cheyne Row numéro 5, il prit par le quai de la Tamise. Juste en avant d'eux se trouvait le pont de Chelsea, entrevu dans une vague et tiède buée londonienne, monstrueux, cyclopéen, franchissant une rivière de métal fondu, le tout avec des contours gentiment estompés, comme vus à travers une lorgnette qui n'est pas au point. Le voile que forme un brouillard londonien, est-il rien de plus beau sur la terre? mais ce n'est point pour admirer cela que le cocher s'était arrêté.
Demande pardon, monsieur, dit-il du ton doucement insinuant du Cockney, mais j'ai pensé que des fois la dame serait bien aise de voir la statue de Carlyle. Le voilà, monsieur, cet homme assis en par-dessus, un livre à la main.
Frank et Maud descendirent et entrèrent dans le petit jardin clos d'une grille, au centre duquel s'élevait la statue. Elle était d'une simplicité presque modeste. Un vieil homme en robe de chambre, avec de gros souliers usés, un livre sur les genoux, les yeux et la pensée bien loin. Il n'y a pas dans tout Londres de statue plus simple, mais qui soit plus parlante. On resta là 5 minutes à la contempler.
« Eh ! Dit enfin Frank, toute petite qu'elle soit, elle est digne de l'homme. »«
Elle a tant de naturel.
On croirait le voir penser. Crébleu, c'est superbe. »
Frank avait assez de ce qui fait le vrai artiste pour éprouver ce flot d'enthousiasme que fait surgir une œuvre adéquate. Le vieillard, dont la tête était honteusement salie par les oiseaux, le mettait positivement en joie. Parmi les statues sans âme, pompeuses, innommables de Londres, en voilà du moins une, près de laquelle on s'attarde volontiers.
Y en a-t-il une autre ?
Le Gordon du Trafalgar Square.
Oui, Gordon, peut-être, mais nos Nelson, nos Napier, nos Havelock, dire que nous n'avons rien pu faire de mieux pour eux. Maintenant que nous avons vu l'homme, ma chère, allons voir sa maison.
Évidemment, la maison était déjà ancienne quand ils s'y installèrent. La date, 1708, était gravée à l'angle de la rue. 6 ou 7 maisons aux teintes noirâtres, à la poitrine plate, aux vitres ternies, s'y succédaient. La leur était enfoncée entre elles comme un coin. Un méchant médaillon avec son portrait de profil avait été gauchement incrusté dans le mur. Quelques marches usées conduisaient à la porte étroite et haute que surmontait une imposte en éventail à l'ancienne mode.
Frank sonna, ce qui fit venir une grosse dame à la mine prospère.
« Vos noms sur ce registre, monsieur, avec votre adresse, s'il vous plaît, » dit la matrone réjouie. « 1 shilling par personne. »«
Merci, monsieur. Première porte à gauche. C'était la salle à manger, monsieur. »
Mais Frank s'était arrêté brusquement dans le vestibule sombre, morne, lambrissé. Devant eux s'étageaient les marches avec la vieille rampe, tout cela fendu, gauchi, poudreux.
« C'est terrible à penser, Maud, terrible. Penser que, toute jeune femme, elle montait ses escaliers en courant, que lui-même, plein de souplesse, les montait 2 à 2, puis qu'ils en vinrent à les descendre tout doucement, en boitant, devenus vieux, las, faibles, et que maintenant ils sont morts, disparus pour toujours, alors que l'escalier dure encore, avec la même rampe, les mêmes marches. Je me demande si j'ai jamais senti aussi vivement que nous ne sommes que des bulles d'air, si fragiles, si promptes à nous dissiper à la moindre piqûre.
Comment ont-ils pu être heureux dans une maison pareille ? Dit Maud. Il me semble que je sens qu'il y a eu ici du chagrin, de la souffrance. Il y règne une atmosphère d'accablement.
La matrone qui les guidait approuvait qu'on fût ému, mais dans l'ordre convenable, il fallait être touché premièrement dans la salle à manger, ensuite dans le vestibule. Sur son invitation, ils la suivirent donc dans la longue chambre basse, bizarre, où ce curieux couple avait passé sa vie de tous les jours. Il y restait peu de meubles. Les murs étaient couverts d'une collection de gravures relatives à la vie de Carlyle.
Voici le foyer dans lequel il fumait sa pipe, dit Frank.
Pourquoi dans le foyer ?
Elle n'aimait pas à en sentir l'odeur dans la pièce. Souvent, le soir, il emmenait ses amis à la cuisine.
Vous figurez-vous que je vous chasse dans la cuisine ?
Ah, c'est qu'on avait moins d'égards autrefois pour l'habitude de fumer.
En outre, dit la matrone, il fumait des pipes en terre. Voici une gravure qui passe pour un bon portrait de Mistress Carlyle.
C'était une figure animée, à profil saillant, sur laquelle se lisait une intelligence vive, avec des indices de passion qui pouvaient tourner au bien comme au mal, dans ses traits éveillés, alertes. Juste à côté d'elle se voyait le profil âpre, austère de son mari. L'histoire de leurs existences tenait dans ces deux portraits. « Pauvre femme !» dit Maud. « Oh oui, vous pouvez le dire !» dit la matrone, avec un accent qui prouvait qu'elle était née au nord de la Tweed. « Il ne faisait pas bon vivre avec lui. Sa propre mère le reconnaissait. À présent, à quoi pensez-vous que servait cette chambre ?» Elle était un peu plus grande qu'un placard, sans fenêtre, ni jour de souffrance, et donnée sur le bout de la salle à manger. Je ne saurais me l'imaginer. Eh bien, monsieur, c'était la chambre à poudrer, au temps où les gens portaient des perruques. La poudre faisait tant de saleté qu'il fallait une chambre exprès. Il y avait un trou dans la porte. L'homme passait la tête par le trou, et de l'autre côté, le coiffeur le poudrait en puisant dans la boîte à farine. C'était curieux d'être ainsi reporté au mode de ce temps jadis et de se représenter combien de gens avaient joué leur tragicomédie entre ces murs. Les gens qui s'habillaient bien étaient seuls à porter perruques. Les hommes à la mode des premiers temps des Georges avaient parcouru ces mêmes pièces au grenier Carlyle où sa femme s'agitait. Et eux aussi avaient grogné, s'étaient énervés ou devaient faire pis peut-être. C'était une vieille maison pleine de revenants. Cette pièce, dit la matrone, quand ils eurent monté l'escalier, servait de salon. Voici leur sofa. Non pas, le canapé, dit Franck. Si, monsieur, c'est le sofa dont on parle dans les lettres. Elle en était très fière, Maud. Elle l'avait payé 18 shillings. Elle le capitonna et le couvrit elle-même. Et voici le paravent, à ce que je suppose. Elle s'entendait fort bien à tenir un ménage. Élevée en enfant gâtée, comme elle le dit elle-même, mais bonne ménagère quand même. Quelle est cette écriture dans la vitrine? C'est à l'histoire à laquelle il travaillait quand il mourut. Quelque chose au sujet des rois de Norvège, monsieur. Voici ses corrections en bleu. Je ne peux pas les lire. Personne n'a pu les lire, monsieur. C'est peut-être pour cela que l'ouvrage n'a pas été publié. Voici les portraits des rois de Prusse au sujet desquels il a écrit un livre. Franck regarda avec intérêt les vieilles gravures, l'une représentant la figure de maître d'école du grand Frédéric, l'autre les traits de grenouille de Frédéric Guillaume, le recruteur à moitié fou des grands grenadiers de Potsdam. Quand il eut fini, la matrone était descendue pour ouvrir la porte. Et ils étaient seuls. Maud lui prit la main. N'est-ce pas étrange, mon chéri, dit-elle. Ici a vécu le couple le plus intellectuel qu'il y eût au monde, et pourtant, avec toute leur sagesse, ils ont manqué de ce que nous avons eu, ce qu'a obtenu peut-être la bonne femme qui nous montre tout cela, la seule chose qui, à ce qui me semble, donne du prix à la vie. Qu'est-ce que tout l'esprit, tout le génie de voir au fond des choses, à côté de l'amour ? Crébleu, petite femme, dans toute la maison des sages propos, il ne s'est pas dit un propos qui renferme plus de sagesse, plus de profondeur. Bon, grâce à Dieu, nous avons au moins cela. » Et il embrassa sa femme, sous les regards farouches que lui lançaient de la muraille six grands électeurs de Brandebourg et rois de Prusse. Ils s'assirent ensemble sur deux vieilles chaises devant la fenêtre, d'où ils regardèrent dans la rue sombre, et Franck voulut passer en revue tous les autres grands hommes, comme disait Maud, moitié taquine, moitié sérieuse, qui avaient regardé par ses vitres. Tennyson, Ruskin, Emerson, Mill, Froude, Mazzini, Leith, Hunt. Il en était là quand la matrone revint. Dans un coin, il y avait une vitrine contenant quelques épaves de vaisseaux disparus. Des notes du vieux Goethe, d'une écriture singulièrement nette et enfantine, sur de petites cartes ornées. Il y avait aussi de petites inscriptions qui avaient jadis été placées sur des cadeaux faits par Carlyle à sa femme. Il était agréable, parmi ce fouillis du passé, de se rappeler l'amour qui les avait dictés et cet autre amour qui les avait si soigneusement conservés. L'une d'elles était ainsi conçue. Que tous les biens accompagnent ma chérie à travers cet abîme du temps et surtout le long océan qui y mène. Amen, amen. T. C. Sur une autre, datée de 1850 et attachée évidemment à quelques cadeaux d'anniversaire, il y avait
Bien des années à ma pauvre petite Jeannie, et puissent les pires d'entre elles lui être passées. Rien de ce que je puis lui donner de bon ne lui manquera jamais tant que je vivrai. Que Dieu la bénisse !» Combien il était étrange que cet apôtre du silence eût jamais manifesté ses sentiments intimes devant la curiosité publique à si peu d'années de distance de sa mort. « Voici sa chambre à coucher à elle, » dit la matrone. « Et voici le vieux lit rouge, » s'écria Franck. L'objet avait l'air nu et grêle et terrible avec ses montants sans rideaux. « Le lit appartenait à la mère de Mrs. Carlyle, » expliqua la matrone. « C'est dans ce même lit dont elle parle dans ses lettres en disant qu'elle l'avait démonté en morceaux. « Pourquoi l'avait-elle démonté ?» demanda Maud. « Il vaut mieux ne pas chercher, ma chérie. »« Vous avez bien raison, monsieur. Quand vous en amenez dans ces vieilles maisons, il est bien difficile de les en déloger. Jamais il ne vint d'Écosse une femme plus propre que Mrs. Carlyle. La petite chambre sur le derrière était son cabinet de toilette. Voici sa canne dans un coin. Regardez ce qui est écrit sur la vitre. » Décidément, cette maison était hantée. Voici la note qui avait été écrite à la pointe de diamant sur la vitre. John Harbell Knowles a nettoyé toutes les fenêtres de cette maison et en a peint plusieurs dans la 18e année de son âge. 7 mars 1794. « Qui était-il ? » demanda Maud. « Personne ne le sait, miss. » Ce qui caractérisait Maud, c'était une telle douceur dans ses manières que tout le monde était convaincu qu'elle était une miss. Franck examina attentivement l'écriture. C'était le fils de la maison et un jeune aristocrate qui, jusqu'alors, n'avait jamais fait œuvre de ses 10 doigts. La matrone fut surprise. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela, monsieur ? Qu'est-ce qu'un ouvrier qui s'appellerait John Harbell Knowles, qui aurait avec cela une bague de diamant ? Et qui donc aurait l'audace d'abîmer ainsi une vitre s'il n'était pas de la famille ? Et pourquoi serait-il aussi fier de son travail, à moins que ce ne fût pour lui chose nouvelle et merveilleuse que de travailler ? Et le fait de peindre une partie des fenêtres indique un amateur et non un ouvrier. Aussi, je le répète, ce fut le premier exploit du fils de la maison. « Ah, vraiment, je crois que vous avez raison, et pourtant, je n'y avais jamais pensé, » dit la matrone. Maintenant, ici, en haut, se trouve la chambre de Carlyle, celle où il a couché 47 ans. Dans la vitrine, il y a un moulage fait après sa mort. C'était chose étrange, presque fantastique, de voir une tête en plâtre dans cette pièce où la tête de chair avait si longtemps reposé. Maud et Franck s'arrêtèrent près d'elle et la contemplèrent longtemps en silence, pendant que la matrone, à la fois ennuyée et sympathique, attendait qu'ils se remissent en marche. C'était un profil aquilin, bien différent de tous les portraits qu'ils avaient vus jusqu'alors, avec des joues creuses, la bouche édentée du vieillard, le nez de faucon, les yeux enfoncés, charpente dénudée de ce qui avait été jadis une belle demeure. Il y avait une expression de repos et aussi d'une sorte de surprise dans ses traits, avec une sérénité, une dignité très subtile. À ce qu'on dit, la distance de l'oreille au front n'est égalée que par Napoléon et par Gladstone. « C'est ce qu'on dit », ajouta la matrone avec la prudence écossaise. « C'est la figure d'un être noble quand tout est dit et fait », dit Franck. « Je crois que le véritable Thomas Carlyle, sans la dyspepsie, et la véritable Jane Welsh sans les nerfs, et la véritable Jane Welsh sans les nerfs, se connaissent et s'aiment l'une l'autre dans quelque existence au-delà. » C'est si doux à penser, s'écria Maud. Oh, j'espère qu'il en est ainsi. Combien la mort me serait chère si seulement on avait cette certitude. La matrone eut un sourire complaisant en sa sagesse supérieure, tirée du catéchisme abrégé. « Là, on ne reçoit ni ne donne en mariage, » dit-elle en hochant la tête. « Voici la chambre d'amis où Mr. Emerson couchait quand il était ici. Et maintenant, si vous voulez bien venir par ici, je vais vous montrer le cabinet de travail. » C'était cette chambre singulière que Carlyle avait arrangée dans l'espoir de la rendre inaccessible à tous les bruits de l'univers, au chant des coqs et, en particulier,
au vacarme que fait une jeune dame en s'exerçant des saints doigts. Cela lui avait coûté une centaine de livres au moins, avec ce résultat qu'il y régnait en été une chaleur insupportable et qu'en hiver le froid la rendait intenable et qu'elle était disposée, au point de vue acoustique, de manière à reproduire tous les bruits des environs. Cette fois, ses phrases farouches et vertigineuses étaient à peine à la hauteur de la situation et les gros mots eussent dépassé les bornes. D'autre part, la pièce était spacieuse et haute de plafond. Il y avait de la place pour loger beaucoup de livres et permettre à un homme irritable d'aller et de venir. Il y avait là des gravures représentant même personnages importants et, dans une longue vitrine, des bouts de lettres et des mémorandums. « Voici une de ces pipes de terre, dit la matrone. Il se les faisait toujours envoyer de Glasgow. Et voici la plume avec laquelle il écrivit Frédéric. » C'était une vieille plume d'oie réduite à l'état de moignon et qui avait bien souffert de son énorme besogne. Du moins, cette plume d'oie avait sur les autres plumes l'avantage d'avoir fait en ce monde du bon travail. Quelques bouts de papier charbonné attirèrent l'attention de Frank. « Oh, regardez, Maud, s'écria-t-il, voici un petit débris de la Révolution française qui a été brûlé. »« Ah, je me rappelle, il avait prêté l'unique copie à un ami et elle fut brûlée par suite d'une erreur. » quel coup terrible, et dire que la première réflexion qu'il fit à sa femme fut « Ah, mille, le pauvre garçon va être bien ennuyé. C'est du Carlyle des meilleurs jours. Et voici en effet un débris du premier manuscrit. Il avait une belle écriture en ce temps-là. « Lisez-le, monsieur, dit la matrone. » C'était un fragment d'une lettre que Carlyle écrivait à son éditeur au sujet de son œuvre détruite. « Ne me plaignez pas, disait-il, encouragez-moi plutôt comme un coureur qui a fait un faux pas, mais qui ne veut pas rester sur place et va se remettre à courir, à courir. » « Voyez-vous ce qu'un malheur positif peut faire d'un homme ?» dit Frank. « Celui-là fit de lui un héros. Et pourtant, il ne pouvait se faire au cri des coqs. Quelle infinie complication il y a dans l'âme humaine. Elle est capable de s'agrandir sans limite et elle est aussi d'une pitoyable petitesse. Eh bien, si jamais j'ai un cabinet de travail à moi, je ferai graver cela sur le mur. Ah, voilà qui vaut notre pèlerinage à Chelsea. » Ce qui avait attiré son attention, c'était une brève exclamation. « Repos, repos, n'aurais-je pas toute l'éternité pour me reposer ?» Cette sereine figure de plâtre là-bas soulignait avec énergie ses vaillantes paroles. Frank les copia au dos d'une des cartes de Maud. Ils avaient parcouru toutes les pièces, mais la matrone, voyant l'ardeur de ses enthousiastes pèlerins, avait encore autre chose à leur montrer. C'était le jardin derrière la maison. Là se trouvait le pot de terre vernissé en verre sur lequel le philosophe, si peu philosophe, avait fumé sa pipe, perchoir, singulièrement froid et incommode. C'était là aussi que Mistress Carlyle avait voulu bâtir une tonnelle et se figurer qu'elle était à la campagne. Il y avait là encore le fameux noyer, ou plutôt le tronc réduit à un bout de souche. C'était là aussi qu'était enterré le chien Néron, le mieux connu de tous les petits toutous blancs de race bâtarde. Et enfin, la dernière chose, c'était la cuisine souterraine et sombre où avait vécu toute une succession de domestiques dont nous entrevoyons vaguement les profils çà et là dans les lettres et dans le journal. Pauvres créatures, condamnées à vivre dans les ténèbres, travaillant si péniblement pour d'autres, si cruellement injuriées, lorsque par hasard, quelque faiblesse humaine vient rompre un instant la monotone routine de leur constant labeur, créatures dont les espoirs, les plaisirs sont si bornés, il n'en est point parmi les êtres qui peuplent cette planète qui méritent davantage qu'un cœur d'homme s'attendrisse sur leur sort. Voilà ce que dit Frank en promenant ses regards dans la pièce enténébrée. Et jamais un mot de sympathie pour elle, ou s'il parle d'elle, il n'y a dans toutes ses lettres que du dédain. Sa plume est consacrée à défendre la dignité humaine, mais quelle dignité humaine y a-t-il chez ces pauvres filles pour lesquelles il n'a d'ordinaire qu'une ligne amère de biographie dans les notes aux lettres de sa femme? C'est là ce que j'ai de plus grave à lui reprocher. « Jemima n'aurait pas souffert cela, » dit Maud. C'était agréable de se trouver ensuite au grand air, mais ils étaient arrivés au bosquet de pins de Woking que Maud n'avait pas encore secoué l'impression triste de cette maison sombre, pleine de fantômes. « Après tout, vous n'avez que 27 ans, » dit-elle pendant le trajet de la gare chez eux. Elle avait une façon bien à elle d'aborder parfois les sujets par le milieu. « Quoi donc, ma chère ? Lorsque Carlyle n'avait que 27 ans, je suppose qu'il ne savait pas qu'il ferait un jour tout cela. » « Non, je ne le suppose pas. » Et sa femme, s'il était marié alors, aurait éprouvé la même sensation que moi par rapport à vous. « Sans doute. Alors, qu'est-ce qui m'assure que vous ne le ferez pas, après tout ?»« Quoi ? Que vous ne deviendrez pas un autre Carlyle ?»« Écoutez mon serment, » s'écria Frank. Et ils franchirent en riant la petite porte à claire-voie de leur maison des Tilleuls.